Vous écoutez France Culture.
Réplique le colonel de la Roque en connaissance de cause avec Serge Berstein et Pascal Horry. Pourquoi consacrer une émission au colonel de la Roque? Parce que cette figure historique est une pomme de discorde parmi les historiens du XXe siècle. La querelle autour du président des Croix de Feu, puis du Parti social français, fait rage et elle n'est pas prête de s'éteindre. Pour saisir les enjeux de cette querelle, j'ai invité aujourd'hui Serge Berstein, qui vient de préfacer les carnets de captivité du colonel de la Roque, Pourquoi je suis républicain, et Pascal Horry, auteur d'une synthèse très éclairante sur un des thèmes obsessionnels de notre temps, du fascisme. Mais avant la dispute, les faits. Qui était le colonel de la Roque? Quels sont les principales étapes de son parcours politique, Serge Berstein?
Alors, le colonel de la Roque est un militaire de carrière qui a servi au Maroc sous les ordres de Lyautey, qui s'est battu et a été grièvement blessé au Maroc, qui a participé, bien que théoriquement réformable, à la Première Guerre mondiale, puis qui a continué sa carrière après la guerre sur différents théâtres d'opérations, et en particulier à nouveau au Maroc, sous les ordres de Pétain. Et en 1927, il prend sa retraite, et avec le grade de lieutenant-colonel, et va adhérer à une petite association très élitiste d'anciens combattants appelée Croix de Feu, parce qu'il s'agit d'anciens combattants décorés de la Croix de Guerre en première ligne et au feu. Et cette association, il en devient le président en 1931, et il va la transformer progressivement. D'abord en appelant les fils et les filles des Croix de Feu, c'est-à-dire de ces anciens combattants décorés au feu, à entrer dans l'organisation, puis en créant une association, celle des volontaires nationaux, qui s'adresse aux jeunes générations qui n'ont pas fait la guerre, mais pas seulement à elles, et dont la condition, en quelque sorte, d'adhésion consiste à partager l'idéal des Croix de Feu, c'est-à-dire l'esprit des tranchées conçu comme unanimisme, comme fraternité, comme défense de la patrie.
Alors justement là-dessus, c'est ce qui, me semble-t-il, distingue cette association des principales associations d'anciens combattants, parce que celles-ci soutiennent en majorité une diplomatie de conciliation avec l'Allemagne, alors que les Croix de Feu arguent de leur sacrifice pour prescrire aux gouvernants de renoncer à toute concession pacifiste. C'est ce qu'écrit Albert Kechichian dans son livre « Les Croix de Feu à l'âge des fascismes ». Les Croix de Feu sont entrés en politique pour rappeler la dette de sang que les civils et les embusqués auraient contractée envers les poilus.
On peut voir les choses comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il est clair que l'idée de partager l'idéal des tranchées va attirer aux Croix de Feu des adhérents relativement nombreux. Et les Croix de Feu font irruption dans l'histoire de France, si je puis dire, le 6 février 1934, lors de la grande manifestation provoquée par les protestations contre l'affaire Stavisky, qui révélerait la corruption des milieux politiques et en particulier des parlementaires. Et cette journée du 6 février 1934, qui est extrêmement complexe, voit une grande partie des ligues de droite tenter un assaut contre le palais Bourbon, avec comme seule nuance que les Croix de Feu, pour leur part, n'accepte pas de manifester avec les autres sur l'avenue des Champs-Élysées, la place et le pont de la Concorde, mais au contraire sur la rive gauche. Et lorsque les premières échauffourées vont commencer sur la place de la Concorde, le colonel de la Roque donne l'ordre de dislocation qui sera suivi par la plupart des croix de feu, pas par tous, parce que certains, effectivement, veulent en découdre et se mêleront aux autres ligues. À partir de là, la croissance des croix de feu va se poursuivre et jusqu'à la dissolution en 1936 des croix de feu par le Front populaire en même temps que les autres ligues, et bien que le colonel de la Roque déclare que les croix de feu, ça n'est pas une ligue, ils ne sont pas armés, ils n'ont plus d'uniforme, etc., mais ils sont dissous, ce qui apparaît a posteriori comme une sorte de soulagement pour un groupe dont les intentions étaient marquées d'une certaine ambiguïté et qui du coup se transforme en parti politique sur le modèle du Parti socialiste SFIO, ce qui ne manque pas de sel puisqu'ils sont très anti-marxistes, et va se développer alors de façon considérable puisque on est sûr qu'il y a plus d'un million d'adhérents en 1939. Les études les plus récentes disent plutôt 1 200 000, mais d'autres, en particulier du côté de la Roque, ont dit 2 millions, en tout cas beaucoup de monde. Et dans une France où l'appartenance partisane est plutôt restreinte, c'est tout à fait considérable.
Même on dit que c'est le parti de masse le plus important de l'histoire de France.
Absolument. Absolument.
Bon, ben, nous verrons la suite, mais je donne tout de suite la parole à Pascal Horry.
Oui, mais j'approuve tout à fait cette présentation biographique de la Roque qui permet de comprendre quelle est sa culture politique, qui est d'abord celle d'un militaire, fils de militaire, hein, fils de général, et qui va d'une certaine façon conserver cet habitus, dirait-on aujourd'hui, de militaire, bien au-delà du moment où il quitte l'armée, parce qu'après tout, sa carrière, entre guillemets, sinon politique, en tous les cas de dirigeant, il la commence à plus de 40 ans. Hein. Il a 46 ans en 31 quand il devient officiellement le président des Croix de Feu. Et par exemple, en 1936, on lui prête, mais apparemment c'est confirmé, une phrase extrêmement sévère sur le fait qu'on n'imagine pas que lui va briguer un mandat parce qu'il n'hésite pas à utiliser le terme de dégoût à l'égard de l'idée de briguer un mandat. Ce qui, d'une certaine façon, d'ailleurs, le met à la fois au-dessus des partis, entre guillemets, mais un peu en marge également. Fondamentalement, il participe de cette culture militaire qui est souvent à tendance antiparlementaire, mais plus généralement, qui a une distance, je dirais, consubstantielle au monde politique, des relations compliquées. Or, le drame historique de la Roque et aussi des Français, c'est que tout ça va se jouer entre des propositions militaires, parce que qu'est-ce que c'est que le maréchal Pétain, qu'est-ce que c'est que Charles de Gaulle, ce sont des gens qui ont également fondamentalement, certes une culture politique, mais de militaire.
On va en venir assez vite à ce débat, à cette querelle dont je parlais. Le Parti social français est devenu un parti de masse, le plus grand même de l'histoire, et pour un certain nombre d'historiens, c'est un phénomène capital, car cela ruine la thèse selon laquelle la France aurait échappé à la tentation fasciste et n'aurait connu un régime, le régime de Vichy que nous aurons à qualifier tout à l'heure, que précisément du fait de la défaite sous l'occupation allemande. Ils disent non, ces historiens, notamment Zef Sternel, mais aussi Robert Soucy, que la preuve est faite du fascisme français, de l'importance, la centralité du fascisme français, par les Croix de Feu et le PSF. Mais avant d'en venir à la définition, je voudrais quand même vous amener à réagir sur certaines affirmations des Croix de Feu. Je lis encore dans le livre de Kéchichian que les Croix de Feu ont justifié leur fondation par l'impératif de réagir à la profanation de la tombe du soldat inconnu par des communistes et des immigrés à Paris le 23 août 1927. 23 août 1927, c'est le lendemain de l'exécution de Sacco et Vanzetti qui ont été condamnés pour une attaque à main armée, condamné sans preuve. Après un long procès, mobilisation des communistes et des anarchistes, et ça engendre une très violente émeute, des magasins dévastés, des réverbères arrachés, et donc cette profanation. On lit, par exemple, « Nous ne permettrons plus qu'à l'occasion de manifestations soi-disant révolutionnaires, mais surtout manifestations de la tourbe, de la boue moscovite et cosmopolite, des promeneurs sans défense, français soient molestés, nous ne permettrons plus que ignominie sans nom, la tombe de notre frère, le soldat inconnu, symbole de nos chers et glorieux morts, soit odieusement souillée par la bave grave des voyous internationaux. Nous descendons dans la rue C'est le Faux pour aider l'armée et la police à rétablir l'ordre par tous les moyens. Autre citation plus tardive, mais qui va dans le même sens. « Voici que le racisme hitlérien, combiné avec notre folle sensiblerie, nous condamne à héberger une foule grouillante, virulente, d'outlaws que rien ne garantit. Et voici que parmi ces derniers, de nombreux îlots se constituent pour lesquels la persécution nazie n'est qu'une couverture d'espionnage et de conspiration. » Donc, dénonciation de l'invasion étrangère, de la concurrence que les étrangers font sur le marché du travail. Et cette phrase aussi, « Agissons en entrant résolument dans la lice, chassons les Français sur papier timbré ou les Français pour qui l'assiette au beurre est l'idéal et le seul but de vivre sur cette terre. » Alors, quelle évaluation doit-on faire de ce genre de propos? Sont-ils centraux dans l'idéologie et dans l'attraction exercée par les croix de feu? Voilà, donc voilà la question que je voudrais poser, Charles Bernstein.
Alors, je pense qu'il faut, bien entendu, ces citations existent et qu'il faut sur ce point nuancer, c'est-à-dire qu'il est clair que les croix de feu, par leur origine, sont nationalistes. On est en face du nationalisme français. Quel nationalisme? Alors là, c'est évidemment une question intéressante, puisque on sait très bien que, en gros, pour simplifier, le nationalisme d'avant la Première Guerre mondiale a été un nationalisme très antisémite, très exclusif, voulant, dans le cas de Maurras, chasser de la communauté nationale les juifs, les métèques, les protestants, les francs-maçons. Dans le cas de Maurice Barrès, un nationalisme raciste, celui de la terre et des morts, l'institution de Jules Souris, un anthropologue qui a convaincu Barrès de la validité de la distinction biologique entre les hommes. Et par conséquent, ce nationalisme-là, ce nationalisme outrancier, il faut bien voir que la guerre de 1914 l'a assez largement modifié. Le négliger, comme le fait par exemple Zef Sternel, puisqu'il est question de lui, la guerre de 1914, c'est se priver de l'élément fondamental par lequel tous les historiens expliquent la surrection du fascisme, même si c'est à partir de matériaux idéologiques qui ont existé auparavant. Alors, ce qui est tout à fait clair, c'est que ce nationalisme conserve assez largement des traces de xénophobie importante, c'est d'ailleurs en quelque sorte une conséquence du nationalisme, mais surtout que la guerre a eu un double effet sur le nationalisme français. Le premier, c'est de le répandre très largement au-delà des groupes minoritaires dans lesquels il s'est incarné avant la guerre de 1914, et une grande partie de la population française est largement nationaliste dans la mesure où elle veut la victoire de la France, où elle déteste les étrangers qui la compromettent et où leur anti-germanisme, par exemple, va être tout à fait considérable. Mais en même temps qu'il s'étend, ce nationalisme perd en quelque sorte une grande partie de sa virulence et a tendance à devenir unanimiste. Il est au fond l'opinion de la majorité des Français à la fin de la guerre de 1914. Et c'est sur ce terreau-là que vont se développer les croix de feu. Alors, qu'il reste des traces de nationalisme, en particulier la méfiance envers l'étranger, elle sera durable, on la trouve très longtemps, et incontestablement, ces éléments-là sont valables. On est en face d'un parti foncièrement anticommuniste, anti-marxiste, c'est-à-dire que les socialistes sont à peu près dans le même panier que les communistes, parce que ce qu'ils veulent défendre, évidemment, c'est la France telle qu'elle est apparue victorieuse à la fin de la guerre de 1914.
Pascal Horry.
Pour continuer à nuancer, je crois que sur toutes les questions, xénophobie à l'instant, mais éventuellement rapport à l'étranger, etc., il faut distinguer les positions de Larocque en tant que telle, qui la plupart du temps, avec le recul, paraît un modéré par rapport même à ses propres troupes. Ça se voit sur la question de l'antisémitisme, on y reviendra dans un
oui,
instant. D'autre part, la presse, et je dirais ce qu'on appellerait aujourd'hui la grande bouche d'ombre des militants Croix de Feu, puis PSF, qui peuvent exprimer des positions, par exemple sur la question de la xénophobie, continuons à prendre ça comme exemple, assez vigoureuses, hein, on pourrait trouver d'autres citations. Et troisièmement, je dirais la base, entre guillemets, on sait que les Croix de Feu et surtout les PSF d'Algérie auraient des tendances antisémites plus marquées oui. que dans d'autres régions.
Bon, en Alsace,
voilà, et en Alsace aussi. Donc il y a déjà ce point-là. Par ailleurs, sur la question de l'antisémitisme, on pourrait dire que Larocque est dans une situation qui est assez fréquente à l'époque, c'est-à-dire qu'il est, il est plus xénophobe qu'antisémite. Je m'explique, il y a la fameuse distinction entre, j'allais dire, les bons juifs et les autres. Et le juif qui est naturalisé, qui est éventuellement naturalisé depuis plusieurs générations, il y a même des textes assez explicites de Larocque là-dessus, qui est ancien combattant, qui a livré son corps à la patrie en 14-18, d'ailleurs c'est la position de Barrès en 14-18, oui. Les grandes familles spirituelles,
et
bien celui-là, je dirais, non seulement Larocque le respecte, mais même le protège, et symboliquement, chaque année, il est présent à la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth.
Mais évidemment, il y a aussi une cérémonie organisée à la Victoire, en hommage aux soldats juifs, sous la présidence, enfin sous l'autorité du rabbin Kaplan.
Mais ça consiste toujours à distinguer quand même les juifs intégrés des autres, et effectivement, purulence, tourbe, etc., ça peut être appliqué effectivement aux juifs qui arrivent, et même parfois aux réfugiés allemands, parce qu'ils sont allemands quand même, même s'ils sont victimes de
l'islam. Je vais donner une autre citation des Croix de Feu, qui n'est pas de Larocque lui-même, mais enfin c'est l'ambiance, puisque les Croix de Feu se donnaient pour mission de perpétuer la mobilisation en vue d'une nouvelle guerre de civilisation, une guerre civile fomentée par les révolutionnaires métèques. Mais toutes les déjections, je cite, de ces nations surnommées rappliquent en France pour s'y goberger à loisir. Tout cela occupe les places qui reviennent aux nôtres et conspire à l'envi contre le régime de leur patrie, ce qui nous met souvent dans d'impossibles situations. La France ne peut pas être plus longtemps l'égout collecteur du monde. Là, on entre tout à fait dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui nous autoriserait à penser, avec ces phrases, cette xénophobie quand même très, très véhémente dans certains cas, que les Croix de Feu et le Parti social français ne sont pas fascistes?
J'aurais tendance à dire, qu'est-ce qui nous permettrait à partir de ça de dire qu'ils le sont? Ce qui suppose un problème de définition du fascisme. Ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que l'homme qui a mis en avant ce sujet, c'est Zapsternel, il n'y a aucun doute, n'est-ce pas?
Et aussi Robert Soucy, dans un livre « Fascisme français 1933-1934 ».
Alors Robert Soucy, c'est un peu plus compliqué, parce que Robert Soucy...
C'est un historien américain.
Non, mais ce n'est pas le fait qu'il soit américain. Paxton est un historien américain qui a incontestablement fait avancer considérablement l'histoire de France. Non, le vrai problème, il n'est pas là. C'est que pour Soucy, il considère au fond tout ce qui est autoritaire comme fasciste. Voilà, ça revient à dire ça. C'est la forme française du fascisme, point à la ligne. Bon, on en a déjà discuté. Michel Vinocq a eu une polémique sévère avec Soucy sur ce sujet. Pour ce qui concerne Zapsternel, c'est autre chose. On remarquera que dans la première édition de Ni droite ni gauche, il n'est jamais question ni du colonel de Larocque, d'une imputation de fascisme à l'endroit du PSF ou des Croix de Feu. Ça n'existe pas. Le fascisme, pour lui, à l'époque, c'était autre chose. Alors, qu'est-ce qui explique que tout à coup, il se soit emparé ce problème des Croix de Feu? Alors, il l'explique très bien, au fond, dans son livre récent, en disant, il est clair que, dans la question du fascisme, le fait que on parle des Croix de Feu est crucial en raison du nombre de leurs adhérents.
Oui, c'est ce que je disais. Oui.
Donc, c'est une récupération a posteriori par Sternel qui fait flèche de tout bois pour affirmer ses idées, ce qui est peut-être de bonne guerre, mais peut-être pas de bonne méthode historique pour mettre en avant son idée selon laquelle le fascisme a son origine en France et c'est la France qui est en quelque sorte le modèle du fascisme, alors que il exonère pratiquement l'Allemagne nazie parce que, dit-il, là-dessus je suis assez d'accord avec lui, le racisme ou l'antisémitisme n'est pas une composante nécessaire du fascisme. Et puis même, au fond, mais on en reparlera tout à l'heure, je pense, l'Italie fasciste, parce que Vichy est bien pire, dit-il. Donc la France est vraiment le berceau, le lieu d'éclosion, le modèle du fascisme.
J'entends bien, Serge-Vincent, mais si on met un instant de côté cette polémique, vous imaginez l'auditeur, le lecteur, qui lit ces phrases, qui a son idée du fascisme, et il se dit, ben voilà, on est en plein dedans.
Et c'était d'ailleurs ce que pensaient les socialistes de l'époque. Oui. Alors, qu'est-ce qui nous autorise, nous, à penser qu'ils avaient tort et à relativiser l'importance de phrases comme celles que j'ai lues, Pascal Horry ?
Mais parce que, de toute façon, du début à la fin, il ne s'agit que de mots. Oui. Donc, il faut se mettre d'accord sur la définition. Certains peuvent dire que fascisme, ça se limite à l'expérience italienne, ça règle le problème. Bon, en général, on a une conception plus extensive du terme. Et le fascisme n'est pas synonyme d'antisémitisme, puisqu'on peut trouver un antisémitisme bien ailleurs que dans le fascisme. Et effectivement, il n'est pas consubstantiel au fascisme italien, il est consubstantiel au fascisme allemand, ça c'est autre chose, mais pas au fascisme italien. Il y avait beaucoup de juifs dans le parti national fasciste qui ont été presque surpris de se retrouver au banc de la nation italienne à la fin des années 30. Bon, mais donc c'est pas l'antisémitisme, c'est même pas la violence antiparlementaire, etc. Non, le fascisme, pour simplifier, c'est une version radicalisée du nationalisme et, il faut le dire, d'un autoritarisme qui confine au totalitarisme, puisque même Mussolini accepte d'utiliser le terme. Et à ce moment-là, il est évident que la ROC n'entre absolument pas dans ce schéma-là, qu'en particulier il se méfie de l'étatisme et qu'il a une préoccupation sociale qu'on peut retrouver dans le fascisme, mais qui est visiblement d'origine catholique sociale. Donc, il est clairement à droite, si on veut continuer à utiliser des étiquettes droite, extrême droite, etc. Mais ce n'est pas l'extrême droite et ce n'est évidemment pas l'extrême droite fasciste. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que la vraie extrême droite et les vrais fascistes le lui ont reproché dès le début, dès 34. Ça s'aggrave en 36 et ils lui font des crocs en jambes, par exemple en 37. Ce sont eux qui sont les plus violents, à la limite, dans la campagne, en utilisant des méthodes consistant à dire qu'il a été plus ou moins acheté par Tardieu, chef du gouvernement des années 30. Ça vient de l'extrême droite qui, elle, a des tentations réellement fasciste.
Et d'ailleurs, qui lui reproche assez violemment son philosémitisme.
C'est un des, mais de toute façon, fondamentalement,
un des griefs de l'extrême droite à l'égard des croix de feu.
À mon avis, le point commun qui explique qu'encore aujourd'hui il puisse y avoir une polémique, et ça se retrouve dans l'argumentation récente de Sternel, mais en la retournant contre lui, c'est que la particularité de la ROC, c'est qu'entre 34 et 39, 40, il représente une grande possibilité politique, d'où le blocage de la gauche qui le classe fasciste parce qu'elle voit bien le danger, compte tenu de sa popularité, etc. Donc on a affaire avec le PSF un parti de droite et de masse, ce qui n'est pas fréquent en France, et avec une tradition bonapartiste sur laquelle on pourra revenir parce que ça nous donnera entre autres, après tout, le gaullisme. Et d'autre part, effectivement, l'extrême droite va lui reprocher, compte tenu du prestige et du nombre, de ne pas avoir franchi le pas. Donc c'est parce qu'il est un grand danger pendant, j'irais, 4-5 ans que tout le monde lui tombe dessus.
Oui, d'ailleurs, Gilles Perrault consacre un article au colonel de la ROC dans son dictionnaire amoureux de la résistance. Et j'apprends dans cet article que, précisément, les croix de feu s'étant abstenus d'aller jusqu'à la Chambre des députés, conformément à l'ordre de leur chef, elles ont gagné le sobriquet, décerné par une extrême droite enragée, de froide queue. Parce qu'ils étaient absolument furieux. Et pour aller dans le même sens, lorsqu'il y a eu un attentat le 13 février 36 contre Léon Blum, une attaque, enfin lors des obsèques de Jacques Bainville, eh bien l'Humanité appelait à la riposte, mais elle a publié une photo non de Charles Maurras, alors que celui-ci incitait quasiment au lynchage de Blum, mais du colonel de la ROC, présenté comme chef factieux. Donc la réputation de fascisme a été faite aux croix de feu dans les années 30 par les communistes et les socialistes. Et effectivement, cette réputation, cet antifascisme un peu idéologique est perpétué aujourd'hui par un certain nombre d'historiens, quoi. C'est ça, Charles Bernstein.
Oui, c'est à peu près ça, si vous voulez. Bon, il faut bien voir que la Troisième République vit idéologiquement sur la vision républicaine de la fondation de la Troisième République, c'est-à-dire sur le fait qu'on est républicain, que si on considère que le Parlement doit être prépondérant dans les institutions et on se méfie de tout pouvoir exécutif fort. Or, le colonel de la ROC est hostile à cette prépondérance du Parlement. Il veut un pouvoir fort. Hein. À beaucoup d'égards, quand on le lit, on se dit, mais c'est le précurseur de la Ve République du général de Gaulle, que pour l'instant, Zef Sternel n'a pas encore traité de fascisme. Enfin, ça viendra sûrement. Et dans ces conditions, on comprend pourquoi les hommes de la Troisième République ont considéré qu'il était fasciste, puisqu'il n'était pas partisan de la République parlementaire. Puisqu'il voulait un exécutif fort, c'est qu'il visait la dictature et c'est que par conséquent, c'était un Mussolini français. On comprend pour l'époque, on comprend moins aujourd'hui.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on a complètement oublié en France en 2014, avec l'expérience de la Ve République qui s'est quand même enracinée, à quel point l'enjeu central avec la laïcité, qui paraît aussi aujourd'hui reconfigurée très, très différemment, ce sont les institutions de la République et en particulier le parlementarisme qui est au centre. Et on se définit comme républicain grosso modo quand on est partisan du régime parlementaire. Absolument. Et sinon, et ça c'est un enjeu qui nous paraît quand même extrêmement lointain aujourd'hui. Après tout, il faut quand même remarquer que les institutions françaises, en 2014, sont assez exceptionnelles dans l'Union européenne. En général, l'Union européenne a adopté un régime parlementaire.
Oui, mais quelles étaient justement les positions du colonel de La Roque vis-à-vis des régimes fascistes? Parce qu'il y avait Mussolini, il y avait Hitler, la gauche ou l'extrême gauche le traitait de fasciste, et lui... Que répondait-il? Comment se situait-il par rapport à ces régimes autoritaires qui en avaient fini avec le parlementarisme, sa faiblesse et son éventuelle corruption?
Alors, il faut à ce moment-là, si vous voulez, on a là une abondance de textes, je dirais même de caricatures. Les caricatures sont très frappantes, parce que qu'est-ce que l'on voit ces caricatures? On voit la République, c'est une Marianne qui repousse des deux mains la faucille et le marteau et la croix gammée.
Les caricatures
dans le journal Le Flambeau, plus tard Le Petit Journal, qui est le journal du colonel de La Roque. Il y a un article qui m'a frappé, par exemple, le 1er mai 1937, en tête du Petit Journal, ou du Flambeau, je ne sais pas, je confonds peut-être l'un des deux. Et en gras, c'est « Pas de fascisme ». C'est le titre du journal. Donc le colonel de La Roque rejette le fascisme. Comme il rejette, il les renvoie dos à dos. Il renvoie dos à dos fascisme et communisme. Pour lui, il y a une politique française qui doit rejeter l'un et l'autre. Et par voie de conséquence, on a une multiplication de textes qui condamnent le système hitlérien, qui est une dictature, de La Roque ayant toujours... affirmé en tout cas, puisqu'on ne peut pas avoir d'expérimentation dans le réel, mais il a toujours affirmé que la dictature, il lui était absolument hostile. Il donne comme exemple que les Croix de Feu ont proposé, ou le PSF, de le nommer président à vie, et qu'il a absolument refusé en disant qu'il lui fallait un mandat, donc il a eu un mandat de 5 ans comme président, etc. Toutes les déclarations de La Roque, alors évidemment, on peut toujours dire ce sont des déclarations poudre aux yeux, etc. Sauf que le reste de son comportement, au fond, va dans le même sens, de la même manière qu'il va refuser, par exemple, une proposition qui vient de l'entourage de Pétain, qui lui est apportée par le commandant Loustono Lacco, et qui lui propose de faire partie d'une sorte d'état-major, d'un éventuel coup de force contre la République. Alors, il nous donne dans ses archives le document que lui a remis le commandant. Par conséquent, il y a là rejet complet de toutes les tentatives de coup de force que La Roque a toujours rejetées. Et c'est difficile de le contester parce que aucun de ces actes ne va dans le sens de ce type d'accusation.
Et c'est vérifié par le comportement individuel ou par petits groupes de certains Croix de Feu ou PSF qui quittent les Croix de Feu, par exemple en 1936, en considérant qu'il est trop modéré, et vont parfois rejoindre même le PPF, dont on peut dire, personnellement je m'engage, que c'est un parti fasciste.
C'est le parti
de Jacques Doriot.
Mais c'est d'ailleurs lui, justement, antisémite, mais qu'il est devenu parce qu'il sentait c'était un thème très attractif.
Tout à fait, qu'il est devenu de plus en plus pendant la guerre en particulier. Mais en tous les cas, ceux-là finissent par quitter La Roque, soit au moment des Croix de Feu, soit au moment du PSF.
Oui. Maintenant, venons-en à une époque dont on n'a pas encore parlé, parce que nous avons arrêté la biographie à l'avant-guerre. Le PSF, parti florissant, immense parti de masse, et arrive la débâcle, la défaite. Quelle a été l'attitude du colonel de La Roque de 1940 à 1944, Serge Bernstein?
Alors, le colonel de La Roque, dans un premier temps, d'abord, accepte parfaitement le vote des pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940. Et pour lui, à la différence du général de Gaulle qui est un rebelle, La Roque est un légaliste. Il l'était sous la Troisième République, il va l'être à l'époque de Vichy. De surcroît, le chef de l'État est maréchal de France et La Roque, qui est un militaire, à le respect du maréchal. Donc on peut dire que c'est un maréchaliste, selon les catégories qui ont été mises en avant. Mais en même temps, il envoie en juillet 1940 à sa famille une lettre qui a été publiée dans l'ouvrage, par lequel il déclare qu'il n'a aucune confiance dans le gouvernement qui vient de s'établir en France. Il fait une différence, peut-on dire, entre Pétain et son gouvernement. Et par conséquent, il va à ce moment-là à Paris, n'est pas sûr d'en revenir. Et il dit clairement à sa famille qu'il considère Pétain comme le syndic d'une faillite française à laquelle il a largement participé comme chef des armées pendant les années de l'entre-deux-guerres. Et donc, il va, en quelque sorte, jouer à Vichy le rôle d'un opposant loyal au maréchal, mais qui conteste la politique conduite par ses gouvernements. Et cette contestation de la politique, on en a de multiples preuves. Son opposition au statut des Juifs...
Elle s'est affirmée, cette opposition.
Elle est absolument affirmée. Elle lui a valu, d'ailleurs, des attaques extrêmement violentes de la part de ce qu'on peut appeler les fascistes de Vichy. Colonel en Juivet, on trouve ça dans Le Cri du Peuple, de Doriot, dans L'Appel, enfin, dans toute une série de journaux à la fois vichistes et collaborationnistes de l'époque, qui reprochent, et Doriot déclarera, lorsque le statut des Juifs est adopté, La Roque a perdu. Donc sur ce point, il n'y a absolument aucun doute. Alors avec toujours la différence qu'on avait signalée au début, c'est-à-dire que il s'agit bien sûr des Juifs français. Sur les Juifs étrangers, il a moins de répugnance, dirons, au statut des Juifs. Alors, il y a cet aspect, il y a sa volonté d'empêcher un parti unique. Alors, Sternel dit maintenant, oui, mais un parti unique, ça n'a aucune espèce d'importance, parce qu'il peut y avoir fascisme sans parti unique. Enfin, moi, je veux bien. Mais enfin, comme le fascisme est totalitaire, comme le rappelait tout à l'heure Pascal, il est clair que l'encadrement de la population exige des cadres pour l'encadrer, et que le parti unique ou son substitut est quand même un moyen de tenir en main la population. Et puis, il va s'opposer à la création de la milice. Enfin, on peut multiplier les exemples. C'est-à-dire que lui, il aurait rêvé d'un Vichy qui prépare en sous-main la résistance, ce qu'il a fini par faire.
Oui, en 1942, il a choisi la résistance.
En 1942, oui, même dès
1940,
il se monte une sorte de réseau, mais qui adhérera au service secret anglais en 1942. Ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être, il faut le rappeler, arrêté en 1943 par la Gestapo, enfermé en France, puis... En Allemagne, où il connaîtra le sort d'un certain nombre de VIP, c'est-à-dire qu'il aura effectivement une captivité très largement aménagée. Ce n'est pas un camp de concentration, mais il est incontestablement déporté en Allemagne. Et le général de Gaulle, d'ailleurs, qui lui bat froid au moment de la libération parce qu'il n'a pas amené son réseau au BCRA, mais au service secret anglais, reconnaîtra en 1961, si j'ai bonne mémoire, qu'il a eu une activité résistante et donnera à sa veuve, puisqu'il est mort à ce moment-là, un certificat de
déclarant. Oui, n'empêche qu'il a été emprisonné en France à son retour, au moment de la libération.
Tout à fait.
Quelques mois, je crois.
Il a été emprisonné. Il est libéré en avril ou mai, je ne sais plus, 1945. Et l'avion qu'il ramène en France voit arriver des gendarmes qui l'embarquent aussitôt. Donc il est passé sans coup férir de la captivité allemande à la captivité française.
Oui, en 1945, rejoue les années 30. C'est-à-dire qu'il est emprisonné définitivement, quasiment jusqu'en 2014 pour certains, dans son image de, entre guillemets, fasciste, ayant mis la République au bord du gouffre, etc. Et on imagine que dans la conjoncture de la libération, beaucoup sont prêts à entendre ça. Et d'autre part, alors, en 40, en revanche, il y a une sorte de paradoxe, si, en supposant qu'il y ait des Français moyens, quelque part, le Français moyen de 1940, il peut s'attendre à ce que La Roque soit un des principaux ministres de Pétain, quand on voit... et pas du tout. Alors, certes, il choisit l'armistice, et ça, le général de Gaulle ne lui pardonnera jamais, c'est quand même là que se fait la grande divergence. Et ensuite, il ne rejoint pas les réseaux gaullistes. Donc, déjà en 1945, bon. D'autre part, c'est vrai que Pétain est justement un chef tel qu'il pouvait le rêver, mais Pétain, lui, a un regard mitigée hein, sur la rock. Dans les années 30, leur relation était à un certain moment très étroite. Hein, ils se sont vus régulièrement pendant quelques temps. Hein. C'est tout à fait intéressant. Dans Pourquoi je suis républicain, la rock confirme qu'il a eu des entretiens réguliers à caractère politique, enfin, du style considération sur l'avenir de la France avec le maréchal. Et puis ça tourne au vinaigre. Je n'entre pas dans le détail. Et puis travail, famille, patrie. C'est, ben quand voilà. même, c'est quand même tout à fait...
C'est son slogan à lui.
Voilà, oui, c'est une philosophie qui lui convient
oui,
très bien.
Ça, donc il faut le savoir. Voilà, c'est-à-dire que Pétain lui emprunte oui. ce qui apparaît comme la devise oui. de Vichy, travail,
c'est une réponse
patrie.
À liberté, égalité, fraternité. Oui. C'est une certaine façon de dire, non, on fait un pas de côté.
Et c'est ça l'extrême, comment dire, ambiguïté. Paradoxe
oui,
ou ambiguïté.
Parce
que...
il est pétainiste, c'est
oui,
clair.
Mais
il est pétainiste.
Oui, sauf que...
collaborationniste.
C'est le 16 juin 1940... dans l'organe du Parti social français, qu'il appelle le premier, le 16 juin, à la résistance. Une seule consigne, quoi qu'il arrive, consigne de gouvernement, consigne civique, résistance.
Oui,
le mot de résistance, il est le premier à l'employer au moment même où Pétain va lui emprunter travail, famille, patrie.
Oui, mais parce qu'il est de ces... Bon, disons maréchaliste, mais moi ça ne me gêne pas de dire pétainiste en ce sens que c'est le maréchal Pétain qui compte, qui évidemment n'en pense pas moins, accepte de faire la concession énorme, hein, historiquement parlant, qu'est l'armistice, mais pour préparer éventuellement une revanche.
Absolument.
Et on parlera plus tard, c'est un peu lourd, de vichisto-résistant, mais on comprend très bien que ces gens-là, en 41-42, bon 43 c'est peut-être un peu tard, puissent se rallier à la résistance. Mais en face de ça, il a ses réticences à l'égard du gouvernement, et quand il dit que grosso modo, vive le maréchal, mais le gouvernement, je m'en méfie. Entre autres, dans le gouvernement, il y a Laval, c'est-à-dire de purs produits de la République parlementaire qu'il n'aime fondamentalement pas. Et c'est vrai qu'assez vite, on lui règle ses comptes. Et en 40, le fait qu'il ait à peine un strapontin, c'est lié à l'entourage du maréchal Pétain, qui en revanche est très hostile à la ROC, et à cause de 34, 36 et 37, à savoir, il a fait échouer le grand projet national avant-guerre, et bien on lui fait payer.
On lui fait payer. Alors, simplement, là aussi, si je me fais l'avocat, de la cause adverse, voici ce que je lis dans le livre de Robert Soucy, qui est un livre à charge contre le colonel de la Roque. Fascisme français, point d'interrogation, 1933-1939. Ça va un peu plus loin parce qu'il parle de certains propos, de certains écrits du colonel de la Roque en 1941. Alors, peut-être s'agit-il de son livre « Discipline d'action », je ne sais pas. Il aurait, c'est Soucy qui le dit, exprimé son admiration pour la vitalité ardente des régimes fascistes et hitlériens, comparé les théories nazies des familles de bonne souche qui ont leurs racines dans la terre aux doctrines de Frédéric Le Play et de René Latour-Dupin. Voilà, donc n'a-t-il pas eu un moment donné cette tentation-là?
Voilà, c'est possible à dire, hein, je veux dire que... On ne peut pas sonder les reins et les cœurs, et il est vrai que la situation à l'époque est pour le moins ambiguë. Bon, il n'en reste pas moins que je me méfie un petit peu des citations de Robert Soucy, puisque Vinocq, dans son article, s'est aperçu qu'elles étaient un peu arrangées pour entrer dans le cadre de ses propos. Bon, je ne dis pas que c'est faux, hein, je n'ai pas les éléments pour le dire, simplement... ça serait en contradiction avec tout le reste de ce qu'on a lu ou de ce qu'on peut lire à l'époque, même tant que Le Flambeau et Le Petit Journal paraissent, à l'époque de la censure de Vichy, où malgré la censure, on voit bien qu'il fait passer dans ses textes des éléments qui sont tout sauf admiratifs envers les régimes fascistes et nazis. Et si c'est vrai, ce serait absolument contraire. Mais j'hésite à penser que c'est vrai parce que on voit mal que ça corresponde à l'époque où précisément il passe des renseignements militaires aux Anglais pour battre ces régimes si pleins de vitalité.
Sur le plan idéologique, en 41, disons, au moment de discipline d'action, on peut très bien comprendre qu'un pétainiste, je ne suis pas ici un avocat de la ROC, j'ai aucune raison de l'être, mais on comprend très bien qu'il puisse participer d'une opinion plus que latente qui consiste à dire, grosso modo, le système ancien de la démocratie parlementaire, du suffrage universel tel qu'on le concevait, est obsolète. Il faut trouver de nouveaux modes de fonctionnement. Il faut mettre en avant les grands organicistes, les grands corps que sont le travail dans une perspective, disons, disons, d'union des classes, donc prononçons le mot corporatiste ou à tendance quand même plutôt corporatiste, le plaid, etc., la famille. Et effectivement, à ce moment-là, il peut dire qu'au même moment, un peu partout, la tendance est dans ce sens-là. C'est vrai qu'il faut être extraordinairement lucide et croire beaucoup à la démocratie libérale pour penser, début 41, que la démocratie libérale a de l'avenir. Alors, je pense que c'est plutôt ça. Hein. Il participe d'un concert intellectuel qui est prédominant en 41.
Oui, mais alors, c'est là, justement, qu'on peut s'interroger sur la pertinence pour penser le fascisme et cette partie de l'histoire du XXe siècle, de l'opposition faite notamment par Zeb Sternel entre les Lumières et les Anti-Lumières. Il dit, au fond, les conditions se créent avec la débâcle pour que les Anti-Lumières l'emportent. Les Lumières, c'est l'individu, alors que les Anti-Lumières, c'est l'insistance sur l'histoire, la tradition, la communauté, la nation organique, etc. Sauf que on ne peut pas dire que De Gaulle ait été seulement, exclusivement, un homme des Lumières. C'était un nationaliste, imbu de Péguy et même de Barrès. Et puis, je pense aussi à cet autre appel, le 16 juin, donc, il y a la résistance de Larocque, mais avant le 18 juin, il y a l'appel du 17 juin, si on peut dire, c'est-à-dire le tract d'Edmond Michelet, distribué à Brive-la-Gaillarde, que rappelle Jean Baster dans son livre « Péguy contre Pétain », où Michelet cite Péguy, précisément, « Celui qui ne rend pas une place, peut-être tant républicain qu'il voudra et tant laïc qu'il voudra, j'accorde de même qu'il soit libre penseur, il n'en sera pas moins petit cousin de Jeanne d'Arc, et celui qui rend une place ne sera jamais qu'un salaud, quand bien même il serait marguillé de la paroisse. » Donc voilà. Et celui qui ne rend pas est mon homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Donc il ancre là, Michelet, la résistance dans un passé beaucoup plus profond. Et c'est là peut-être que cette opposition ne fonctionne pas. Et reprocher à Larocque de ne pas être un apôtre de la démocratie libérale, ni tout à fait un homme des Lumières, ça manque son objet parce que c'était aussi le cas des plus grands résistants, ou d'un certain nombre d'entre eux.
Oui. Le problème, c'est qu'il est extrêmement difficile d'appliquer à des éléments concrets, dans une conjoncture donnée, des vues générales intéressantes par ailleurs sur l'histoire des idées à travers les siècles. Je pense qu'il y a là une différence d'échelle qui est considérable et que l'histoire, qu'on le veuille ou non, se fait à hauteur d'homme, même si les idées y sont fondamentales, mais pas sous la forme de grands principes philosophiques qui échappent au plus grand nombre, mais sous la forme de vulgates qui s'inscrivent dans une culture politique débouchant sur le concret. Donc je pense qu'il y a là une erreur de méthode pour quelqu'un qui veut faire de l'histoire, il n'y a pas de doute.
Depuis son premier ouvrage, La perspective de Zeb Sternel, qui a apporté beaucoup, en particulier par l'exhumation de textes, hein, que les historiens français connaissaient mal ou ne mettaient pas forcément en avant, mais à mon avis pêche d'un point de vue épistémologique, c'est exactement ce que vient de dire Serge Bersten, à savoir que cette histoire des idées, ce n'est pas liée à une présence de la société. La société qui détermine des réseaux, qui détermine des rapports de force, qui explique que, qu'on s'appelle de Larocque ou de Charles de Gaulle, etc., on puisse évoluer, voire être contradictoire. Et ça se voit très bien dans le cas de Larocque. Par exemple, le simple fait qu'il transforme Croix de Feu en un parti social français, ça fait baisser d'un ton, effectivement, la revendication. On sent bien qu'il entre dans un système qu'on pourrait même qualifier de parlementaire. On imaginerait bien jouant le jeu d'un parlementarisme musclé, etc.
Obtenir la majorité
au
Parlement.
Voilà. Exactement. Et à la libération, les derniers fantômes du Parti Social Français vont se retrouver dans des combinaisons très 4e République, oui, y compris avec les radicaux, vont devenir des indépendants, membres du Parti, du Centre National des Indépendants. Alors que, j'allais dire, la sensibilité PSF va peut-être se retrouver parmi les électeurs du général de Gaulle.
Oui, c'est ça, notamment au RPF.
Ouais, au RPF, oui.
Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que on peut prendre en compte, pour compléter ce qui vient d'être dit, ce qui se passe lorsque Larocque est emprisonné en France à la Libération, où on le voit envoyer des délégués auprès du secrétaire général du Parti radical pour essayer de constituer une une organisation qui comprendrait le PSF, ou du moins ce qu'il en reste, les radicaux, les socialistes non marxistes et anticommunistes, bien entendu, ceux de Paul Fort, hein, je suppose, ce qui, à tout prendre, a relativement existé après la mort de Larocque, si on considère, par exemple, la création du Rassemblement des gauches républicaines, qui comprend à peu près ces éléments-là.
Voilà. Les derniers survivants du PSF se retrouvent dans une organisation, d'ailleurs un peu molle et qui va échouer, où il y a le mot gauche. Quoi.
Oui, oui. Oui, mais est-ce qu'il y avait une très grande insistance de Larocque aussi sur la dimension sociale.
Oui, hein,
et,
oui, celle-là est réelle.
Mais pour des raisons tenant aussi à son très fervent christianisme.
Absolument.
Et ce fervent christianisme est aussi ce qui empêchait toute adhésion au fascisme, au culte de l'homme nouveau.
Pas la démocratie chrétienne. Pas la démocratie chrétienne parce qu'elle est parlementaire.
Ah oui,
le christianisme social, qui au fond est d'origine ultra, hein, si on peut dire.
Oui. Le catholicisme social, ce n'est pas la gauche du catholicisme.
Oui.
C'est une façon qui pourrait être rattachée à la droite de l'Église catholique de faire un pas de côté en considérant que la vie politique, c'est quand même pas là que le catholique, surtout sous la République, doit exercer ses talents, mais c'est le social.
Oui, mais c'est ce que
donc c'est assez conservateur le catholicisme social.
Albert Kechichian, dans son livre, c'est les derniers mots, la fidélité de Larocque au souffle de la prédication évangélique a contribué à préserver les croix de feu d'une dérive vers le fascisme.
Ça, on
peut tomber d'accord. Mais en même temps, oublions un instant la polémique avec Zev Sternel. Je l'ai invité il y a quelque temps au moment de la publication en poche de l'édition de Ni droite ni gauche avec Jean-François Cirinelli. Je me suis ému devant lui du choix iconographique de mettre en couverture de ce livre sur l'idéologie fasciste, en effet, une photo des croix de feu. Donc nous en avons parlé, mais oublions cela parce que c'est aussi la question de l'évaluation que l'on peut faire du nationalisme.
Oui.
Aujourd'hui, on a tendance quand même à identifier nationalisme et fascisme et à penser justement que le nationalisme a été ruiné, au fond, intellectuellement et moralement, par la Deuxième Guerre mondiale. Or, quand on essaye même de se souvenir, ce qui a écœuré beaucoup de gens, c'est de voir des prétendus nationalistes choisir un régime dont la défaite était non seulement l'origine, mais comme l'a écrit Jean Kelevitch, la raison d'être et la gloire. Une mystique de la défaite, c'était ça qui a, si vous voulez, discrédité l'action française. Donc c'est pas le nationalisme en tant que tel, puisqu'il fallait bien vouloir défendre sa nation face à l'occupation, mais c'est l'idée d'un nationalisme qui pouvait s'arranger de l'occupation, qui pouvait collaborer avec l'ennemi, et de Gaulle est resté toute sa vie, malgré tout, nationaliste dans un certain sens.
Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est, à mon avis, anti-historique, c'est de considérer qu'un groupe, par exemple, comme le nationalisme, c'est une entité absolument insécable. Alors qu'en réalité, il y a des nuances importantes à l'intérieur du nationalisme, comme d'ailleurs des autres courants, que la conjoncture fait évoluer les gens et que on a, depuis la guerre de 1914, je le précise, un nationalisme modéré qui s'oppose au nationalisme intégral des maurrassiens et que ce type de nuance, bien entendu, de Gaulle est un nationaliste, je suis entièrement d'accord sur ce point, c'est un héritier au fond de la tradition bonapartiste, très clairement, et pour autant, on ne saurait considérer qu'il est fasciste ou alors il faut vraiment aller très loin dans le refus de la réalité historique.
Oui, d'où l'intérêt du choix de 1940, parce que De Gaulle a sur ce plan-là une cohérence, mais qui n'est construite qu'a posteriori, parce qu'en 1940, il est très seul, à savoir, je suis patriote, à une limite, j'accepterais peut-être d'être qualifié de nationaliste, enfin, je suis patriote, mais c'est parce que je suis patriote que je refuse l'armistice. Clairement, Larocque, et 90% des Français, entre guillemets, choisissent quand même la solution de l'armistice. Il faut préciser que dans le texte de l'armistice, il y a déjà le mot de collaboration, ça n'attend pas octobre. C'est-à-dire qu'on est obligé de collaborer quand même, puisqu'on signe un armistice. Et c'est un armistice qui engage les autorités civiles. Ça permet aux militaires de se laver les mains, puisque l'hypothèse capitulation, c'était que les militaires qui portaient le fardeau, et qu'éventuellement, un gouvernement en exil allait poursuivre le combat. Donc sur ce plan-là, la culture politique de Larocque rejoue, et celle de Maréchal Pétain, parce que c'est pas Larocque qui compte en 40, c'est le Maréchal Pétain, c'est-à-dire, la faute est aux civils, pas aux militaires, et on en profite pour reconstruire la France. C'est ça, c'est quand même l'ambiguïté, et De Gaulle, lui, n'est pas ambigu.
Oui, on en profite pour reconstruire la France. Mais justement, ma dernière question portera sur la signification qu'il faut donner au régime de Vichy, si même l'application du terme de fasciste convient à la diversité des composantes de Vichy. Et là, je voudrais vous citer la réflexion d'un grand historien que je pense vous avez connu tous les deux, Raoul Girardet.
Nationaliste.
Oui, grand historien du nationalisme. C'est un livre magnifique, je dois dire. C'est un livre magnifique d'entretien, mais écrit avec Pierre Assouline, singulièrement libre. Un livre vraiment remarquable, d'une profondeur extrême, une très grande intelligence. J'ai appris qu'il était épuisé. J'espère qu'il va reparaître. Il était publié chez Perrin. Il dit « Vichy a été en fait un lieu de rencontre des influences les plus diverses. Le maurrassisme et les maurrassiens y ont sans doute été présents. Lui-même, Camelot du Roi, a choisi tout de suite la résistance. » comme d'autres, Raoul Girardet, mais aussi certains épigones de la démocratie chrétienne, des représentants du vieux libéralisme conservateur, auxquels il convient d'ajouter divers héritages venus assez directement de la Troisième République finissante. Ce qui est intéressant dans l'histoire idéologique de Vichy, c'est que les espérances frustrées de la période précédente y ont toutes, à un moment ou un autre, cherché leur accomplissement. Le maurrassisme, le planisme technocratique, le personnalisme d'esprit, un certain socialisme dit national, les hommes d'X-crise, etc. Est-ce que là, on a n'approche pas un peu de vérité.
Tout à fait, tout à fait. C'est Vichy est à l'évidence une auberge espagnole où tous ceux qui veulent jouer un rôle dans un nouveau régime arrivent. Depuis les anciens communistes, les socialistes à gauche, une partie des démocrates chrétiens, l'extrême droite nationaliste, les nationalistes modérés, les libéraux, etc. Il y a tout le monde à Vichy. C'est clair. Alors, il y a bien entendu des influences diverses qui s'exercent à un moment ou à un autre. Donc, le fascisme est un des éléments composants de la mosaïque vichysoise. Les hommes comme Darnan, par exemple, pour citer un exemple, ou quelques autres, sont très clairement des fascistes et joueront un rôle à l'extrême fin de la période. Donc, il y a plusieurs étapes de Vichy, bien que Sternel, encore une fois, nous dise non. Il n'y a qu'un seul Vichy.
Mais être historien, c'est distinguer 40 de 44. En 40, clairement, Vichy n'est pas fasciste. Et le refus du parti unique, c'est le critère. Et ça, là, la Roque est de ce côté-là. De ce refus-là, c'était un pas essentiel qui aurait été franchi. Il n'est pas franchi. Évidemment, dans l'abandon progressif de la souveraineté française, on peut dire qu'entre janvier et août 44, progressivement, le régime de Vichy, ce qu'il en reste, fantomatique, se fascise. Hein, avec, entre autres, la milice, avec des gens comme Marcel Déat, qui arrivent au levier de pouvoir, sauf qu'ils n'ont plus de pouvoir. Mais la tendance du régime, ça fait un petit peu penser de manière soft à ce qui arrive avec Horthy, puis les Croix fléchées. On ne sait pas comment aurait pu continuer à évoluer. Et le problème, c'est que le maréchal est là encore, en train de couvrir.
Merci beaucoup, Pascal Horry. Merci, Serge Bernstein. Je rappelle, Pascal Horry, que vous avez écrit « Du fascisme ». Le livre est publié aux éditions Perrin, dans la collection Timbus. Et vous avez préfacé, donc, Serge Bernstein, « Colonel de la Roque, pourquoi je suis républicain » aux éditions Du Seuil. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine aura lieu la dernière émission de la saison avant la grille d'été. Elle s'intitulera « L'héritage de Napoléon Bonaparte ». Mes invités seront Patrice Guénifet et Lionel Jospin. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Sébastien Labarre. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.